Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Daniel Weil. Daniel, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors, je rappelle, vous êtes le directeur recherche, stratégie et développement durable chez Primonial RIM. Aujourd'hui, Primonial RIM, ça gère un peu plus de 35 milliards d'actifs immobiliers au niveau européen. Et vous êtes notamment l'un des principaux collecteurs en SCPI sur le marché français depuis plusieurs années. Alors, on va pas parler de SCPI tout de suite, on va plutôt parler de conjoncture, en tout cas de conjoncture économique et immobilière. D'abord, dans une dernière étude que vous avez rédigée, vous expliquez que l'économie mondiale est entrée dans un nouveau cycle, une nouvelle époque. Comment on décrit cette nouvelle époque ? Donc, c'est, je suppose, inflation, remontée des taux.
Oui, je parlerais d'ailleurs plutôt de nouveaux régimes que de nouveaux cycles, hein, puisqu'effectivement, sans préjuger de ce qui va se passer dans les 18-24 mois qui viennent, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'on est sorti de l'ère des taux négatifs et de l'inflation très basse qui allait avec. Et donc ça donne un système de coordonnées entièrement nouveau pour l'immobilier. Si on fait confiance à la Banque Centrale Européenne, elle affiche un objectif de l'ordre de 2% d'inflation qui était avant un maximum et qui va devenir un minimum et qui va devenir un maximum. Et un monde à 2% d'inflation n'est pas du tout le même, à 2% de taux d'intérêt n'est pas du tout le même qu'un monde à zéro. Ça veut dire une réévaluation de l'ensemble des primes de risque. Et ça veut dire notamment que le concurrent obligataire, le placement obligataire, que chacun connaît au moins directement via son fonds en euros, eh bien revient finalement dans la course, dans la hiérarchie des déplacements. Donc du point de vue de l'épargnant, c'est une évolution qui est assez importante.
Oui, donc l'immobilier n'est plus la star des placements en termes de primes de risque. Bon, on va y revenir, mais à court terme, on voit qu'effectivement il y a déjà eu un impact économique sur l'industrie, sur les marchés boursiers. Évidemment, l'immobilier jusqu'à il y a quelques semaines, je dirais, ou quelques mois au maximum, semblait épargné. On voit en termes de chiffres de collecte, que ce soit en France, en Europe, pas vraiment de, il n'y avait pas vraiment d'arrêt. Idem en termes de rendement. Et là, il semble que depuis la rentrée, ça y est, les investisseurs sont officiellement attentistes. C'est quoi l'impact à court terme en fait sur l'immobilier?
Trois choses qui expliquent un peu cette bonne tenue de l'immobilier. La première, c'est que le marché locatif se porte bien. Objectivement, je dirais la demande placée s'établit toujours aux alentours de 2 millions de mètres carrés en Ile-de-France par an. Les chiffres de l'emploi sont bons et assez déconnectés finalement des chiffres de la croissance. Ça, c'est un peu une particularité du moment que nous vivons. Et l'important pour le bureau notamment, ce sont les chiffres de création d'emplois. Ensuite, il y a l'effet positif de l'indexation des loyers à l'inflation. Puisqu'effectivement, une des forces de l'immobilier, une des raisons pour lesquelles il va quand même tirer son épingle du jeu en termes de placement, c'est effectivement sa faculté de couvrir imparfaitement, mais couvrir quand même, face à l'inflation par le biais de l'indexation des loyers. Et puis enfin, il y a quand même une lenteur des valeurs immobilières, des expertises immobilières qui, d'une certaine façon, permettent d'amortir les chocs. C'est contrairement aux valeurs boursières, évidemment, où il y a des signaux de prix qui sont instantanés. Les expertises prennent progressivement en compte ce nouveau contexte et les hausses de taux qu'on voit, elles vont toutes dans le même sens, mais c'est finalement à intervalles réguliers et en étant prévenu. Parce que ce qui est plus destructeur que les hausses des taux, ce sont les anticipations de hausses des taux, en vérité. Comme ce qui est plus destructeur que l'inflation, ce sont les anticipations d'inflation. Et là, on a une politique assez coordonnée de la part des banques centrales, avec un calendrier de hausse auquel, justement, tous les acteurs s'adaptent. Donc, on peut vraiment constater, en tout cas aujourd'hui, que certes, il y a un attentisme, vous l'avez dit, de la part des investisseurs institutionnels, mais il n'y a pas de pessimisme, au sens où il n'y a pas d'anticipation d'un craquage ou d'un retournement.
En fait, ils attendent une baisse des valeurs, enfin, ceux qui achètent.
Voilà, ils attendent une baisse des valeurs, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler une reconstitution de la prime de risque, si on voulait le dire de façon plus technocratique, et ce qui n'est pas forcément la même chose. hein, puisque une augmentation des taux ne signifie pas mécaniquement une baisse des valeurs, puisque entre les deux, précisément, il y a l'indexation des loyers, et donc l'indexation joue, si on veut, le rôle de parachute d'amortisseur, si on veut, de l'impact sur les valeurs de la hausse des taux.
Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une nouvelle hiérarchie des placements qui va se mettre en place. Donc l'immobilier est moins bien placé qu'auparavant, où grosso modo, il était en très bonne place.
En relatif.
En relatif. C'est quoi l'avenir du placement? Enfin, quels sont les atouts résiduels du placement immobilier dans ce nouveau contexte?
Je pense qu'il y a deux choses qu'on devrait voir. La première, c'est clairement les primes de risque sur des actifs entre guillemets classiques, et évidemment le bureau, vont se réajuster. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui et ce sera acté, je pense, au 31 décembre 2022. Mais le bureau prime va voir son taux de rendement, son taux de capitalisation augmenter, je pense, entre 40 et 80 points de base, ce qui est plutôt une normalisation en vérité. Et donc reconstituer, je dirais, donc sa prime de risque, c'est-à-dire l'écart avec ce qui est convenu comme le taux sans risque, qui est l'OAT à 10 ans français. Et ça va s'étaler dans le temps, mais on le verra clairement. Ensuite, il y a la montée en puissance des placements, je dirais, plus alternatifs au sein de l'immobilier. Alors nous, chez Primonial REIM, on connaît bien l'immobilier de santé. Il y a également une envolée qu'on peut anticiper de tout ce qui est logistique, de tout ce qui est également des placements ou des investissements plus, entre guillemets, value-added, c'est-à-dire créateurs de valeur par des stratégies plus agressives. Et effectivement, tout ça, ce sont des moyens de reconstituer la prime de risque. À la fin des fins, je pense que c'est ce qui va arriver, ce qui veut aussi dire que la gamme des placements va s'étoffer, changer, et que les sociétés de gestion devront gérer cette transition vers un monde où il y aura des placements sans risque garantis en capital qui délivreront du 2,5-3,5%.
Donc l'industrie va devoir travailler davantage, si je vous entends bien, mais elle va aussi devoir travailler davantage par rapport à une autre contrainte, c'est la contrainte ESG, oui. Dont le coût, on sait, est assez énorme. Comment l'industrie va à la fois gérer cette remise en cause de la hiérarchie des placements et puis ce coût additif?
Il n'y a pas forcément de contradiction dans la mesure où dans le cadre de placements un peu plus value-add, un peu plus créateur de valeur, effectivement, on peut orienter ce qu'on appelle les CAPEX, hein, capital expenditure, les travaux, vers des travaux de décarbonation. Donc il n'y a pas forcément d'addition de ces deux contraintes. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le marché se cherche dans l'intégration de l'ESG dans les valeurs immobilières. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde est très centré sur les différents labels. Hein, que ce soit les labels sur les actifs ou les labels ISR, etc., qui connaît un franc succès d'ailleurs en France. Moi, je pense que le prochain élément qui va arriver, c'est l'intégration spécifique du facteur carbone, c'est-à-dire de l'intensité carbone dans le prix. Il y a quelques travaux de recherche aujourd'hui sur ces questions-là. Donc, en fait, quand vous parlez du coût, je crois qu'il faut comment dire, mettre ça un peu en contexte. C'est-à-dire qu'il y a le coût des travaux qui permettent d'avoir une meilleure intensité carbone. Il y a la hausse de loyer qui peut résulter du fait qu'on a des locaux qui sont rénovés. Il y a la liquidité accrue des placements sur lesquels on aura fait ce traitement ESG. Donc en fait, c'est plutôt l'équation du business plan dans le temps des immeubles qui va changer. C'est pas une perte sèche, hein, ce sont pas des capex qui occasionnent une perte sèche, qui sont un coût qui ne se retrouvera pas dans la performance. En revanche, il est clair que ça va s'étaler dans le temps, parce que notamment pour des véhicules comme la SCPI, qui sont des véhicules de distribution, on ne peut pas appliquer, on ne peut pas rénover 100% ou restructurer 100% des actifs. Donc il va falloir le faire dans le temps.
Alors on parle des SCPI justement, on disait que les investisseurs étaient attentistes. Ceux qui ne le sont pas pour l'instant encore, ce sont les particuliers qui continuent à investir massivement dans les SCPI, collecte record encore au troisième trimestre, 7,5 milliards depuis le début de l'année. La SPIM et la IUF viennent d'annoncer un taux de distribution de 4,50 théoriquement en 2022. Ça va continuer longtemps, cette collecte record, ces rendements record, entre guillemets.
Record, je sais pas, mais en tout cas, une collecte importante en SCPI, ça me paraît relativement acquis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et ça c'est absolument structurel, depuis une dizaine d'années, la SCPI et d'autres véhicules, SCI et autres, ont vraiment gagné leur place dans, à la fois dans l'allocation des particuliers qui sont intermédiés par des conseillers en gestion de patrimoine, parce que la SCPI est un véhicule qui est intermédié nécessairement par des conseillers, et a pleinement gagné sa place dans, je dirais, les circuits de l'assurance vie, les circuits de la banque privée, et donc cette incorporation de l'immobilier dans le bouquet de placement qui est proposé nécessairement à tout investisseur, ça ne va pas partir, et à mon avis c'est quelque chose de relativement incompressible. Par contre, effectivement, bah, y a la concurrence accrue d'autres classes comme les produits structurés, comme tel ou tel produit
obligataire. Peut-être même la remontée des contrats en euros, justement. Parce
que c'est absolument, en sachant que les assureurs ont aussi des incitations à limiter ce contrat en euros pour des raisons d'économie interne de l'assurance vie. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que la collecte des SCPI sera de toute façon portée par l'industrie de la distribution.
D'accord. Et donc, en supposant qu'il y ait un arrêt de la collecte, enfin en tout cas un tassement de la collecte, ça n'aura pas d'impact sur la capacité de l'industrie à générer du rendement ou de la plus-value à terme?
D'abord, oui. Historiquement, les tassements de collecte bénéficient plutôt en termes de performance. Mmh. Il faut bien le dire, parce que tout le sport en SCPI, c'est effectivement cette course entre collecte et investissement, et faire attention de pas collecter trop ou investir pas assez. Et d'autre part, moi, je vois toujours un volant de collecte en immobilier important, parce que fondamentalement, les Français, pour préparer leur retraite, ont besoin de véhicules immobiliers. Ça ne va pas partir.
Eh bien, écoutez, on verra ça l'année prochaine. Daniel Weil, merci beaucoup.
Merci à vous.
Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.